France Culture.
Et le journal vous est présenté ce soir par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Mathéo, bonsoir à tous. Les marchés financiers chahutés par les surtaxes de Donald Trump, la baisse est très forte en Asie, plus limitée en Europe, alors que le président américain reste inflexible. L'Union européenne cherche à négocier avec Washington. Page spéciale dans ce journal avec Valentin Gris, Pierre Benazé et Étienne Monin. Il y a 31 ans, le génocide au Rwanda, aujourd'hui la guerre en République démocratique du Congo, rallume la haine à l'encontre des populations Tutsi. C'est le dossier de cette édition signée Mathilde Cariou. La justice suspend un parc éolien dans l'Hérault. Les éoliennes d'Omelas vont devoir s'arrêter pendant 4 mois pour protéger les rapaces. Dernière ligne droite dans le procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire du présumé financement libyen. L'avocat de l'ancien ministre Claude Guéant a plaidé tout à l'heure la relaxe de son client. Ne soyez pas stupide, soyez fort, courageux et patient et la grandeur sera au rendez-vous. Voilà les mots de Donald Trump aujourd'hui sur sa plateforme Truth Social pour tenter de calmer la tempête boursière provoquée par sa guerre commerciale à coups de surtaxes douanières. Ce sont surtout les marchés asiatiques qui ont plongé ce matin. Moins 13% à la bourse de Hong Kong, moins 7% à Shanghai, presque moins 8% à Tokyo. Le recul est moins fort en Europe, aux alentours de 5% à Paris. Il faut remonter au début du Covid en 2020 pour retrouver un décrochage aussi massif des marchés financiers. Pour autant, Valentin Gris, l'économie réelle n'est pas encore menacée par cette tempête boursière.
Pour le moment, force est de constater que c'est la politique commerciale et donc l'économie réelle qui bouscule la bourse et non l'inverse. Et avec la mise en place de droits de douane, certaines entreprises vont réaliser de moins bons résultats. Leur valorisation boursière risque donc de continuer à décroître. Certains secteurs sont plus exposés à des pertes en bourse, notamment la tech, car les investisseurs y misent plus régulièrement sur des promesses de rendement futures que sur des réelles performances actuelles. Elles peuvent donc très fortement décrocher. Là où Wall Street peut en revanche affecter l'économie réelle, c'est via le circuit de la dette. S'endetter va devenir moins coûteux pour les États, car les gestionnaires cherchent en ce moment à vendre des actions pour acheter des obligations de dette souveraine, un actif considéré comme plus sûr. Cela avantage les États, comme le souligne Pascal Quiry, professeur de finance à HEC.
Et mécaniquement, ça engendre une baisse des taux, donc ça veut dire peut permettre aux États de se refinancer moins cher qu'ils ne pouvaient le faire la semaine dernière, si vous voulez, ce qui est une petite compensation au choc économique dû à ces hausses brutales et presque anarchiques des droits de douane.
Seule exception, la dette des États-Unis, car Donald Trump pourrait faire baisser la confiance envers les bons du trésor américain.
C'est une question qui est perturbante à terme, parce que si des trésors de pays non américains se mettent à vendre une partie de leurs encours de dette américaine, ça a un impact très très fort sur le dollar et ça a un impact sur les taux d'intérêt aux États-Unis. Je ne sais pas si ça a bien été pris en compte ou bien estimé par les responsables politiques américains.
Autre effet de la bourse sur l'économie, un possible recul de la consommation des ménages qui détiennent des titres. Mais il devrait être faible car seulement 17% des foyers européens détiennent des actions et ce sont souvent les ménages les plus aisés. Ce risque est encore plus élevé aux États-Unis, avec quelques 45% d'épargnants en bourse.
Décryptage signé Valentin Gris. Aux États-Unis, Wall Street limite ses pertes en ce moment, moins de 1%. La bourse new-yorkaise qui a brièvement bondi après l'ouverture lorsque la chaîne CNBC a affirmé que Donald Trump envisageait une pause de 90 jours avant d'instaurer les nouveaux droits de douane. Information rapidement démentie par la Maison-Blanche. Face à cette guerre commerciale de Trump, l'Union européenne semble jouer l'apaisement ce soir. Bruxelles fait une offre à Washington, une exemption réciproque de certains droits de douane. L'UE qui cherche peut-être à s'attirer la clémence des États-Unis alors que la Chine a décidé, elle, de surtaxer à 34% les produits américains. Pierre Benazé, vous êtes à Bruxelles. La négociation reste l'objectif, d'où cette proposition européenne de supprimer totalement les droits de douane sur les biens industriels de part et d'autre de l'Atlantique.
Oui, c'est la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui vient de révéler que cette proposition avait été faite aux États-Unis afin de les convaincre de s'asseoir enfin à une table de négociation. Mais en fait, cette proposition, elle a été émise dès le 19 février. C'est ce qu'a révélé le commissaire au commerce, Maroš Šefčovič. Il annonce que ça concernait non seulement l'ensemble des biens industriels, mais aussi plus spécifiquement l'automobile et les produits chimiques ou pharmaceutiques. Ça n'a pas empêché Donald Trump de se lancer dans une nouvelle guerre commerciale, mais les Européens veulent toujours toujours croire à la possibilité d'une négociation. Dans un plateau de la balance, il y a donc cette proposition de droits zéro pour zéro, comme ils sont surnommés ici, et dans l'autre plateau, des droits de douane en rétorsion. Les premiers sont déjà en route, sur l'acier et l'aluminium, où il s'agit de remettre en œuvre l'essentiel des contre-mesures déjà imposées lors de la première guerre commerciale avec Donald Trump en 2018. La liste précise va être soumise ce soir par la Commission aux 27 capitales. Elles devront se prononcer mercredi pour une entrée en vigueur le 15 avril. La suite va arriver rapidement car la Commission a préparé une autre liste d'importations américaines qui serait soumise à surtaxe, en théorie à la mi-mai, toujours avec l'idée d'une réponse graduelle destinée à convaincre les États-Unis de négocier. Plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et la France, veulent aller plus loin et activer le nouvel arsenal anti-coercition pour frapper en particulier les services fournis par les géants américains du numérique. Italie et Espagne traînent des pieds. Le ministre irlandais du commerce avertit ce lundi, frapper ceux qu'on surnomme les géants de la tech pose le risque, je cite, d'une escalade extraordinaire.
Pierre Benazé, correspondant à Bruxelles. Au total, une cinquantaine de pays ont déjà fait le choix de négocier avec l'administration Trump, selon la Maison-Blanche. Il y a par exemple le Vietnam, le nouveau tigre industriel asiatique imposé à 46%. Le coup est rude pour ce pays communiste qui exporte l'essentiel de sa production aux États-Unis, Étienne Monin.
Pour le Vietnam, la politique protectionniste du président Trump est une menace directe sur sa croissance. Ces dernières années, le pays est devenu une plateforme d'exportation vers les États-Unis. Il a profité de la politique de relocalisation de la Chine sur son territoire au moment où les tensions ont grimpé avec les États-Unis. Et il a mené une politique commerciale volontariste dans des domaines qui ont été abandonnés par le géant chinois quand il a fait le choix de diversifier sa production. Le Vietnam, pays communiste, est donc devenu un producteur de pointe dans le domaine du textile, des baskets et de l'électronique. Samsung est fortement implanté, Apple également. Nike produit 50% de ses chaussures sur place, Adidas presque 40%. Mais avec sa croissance à presque 7%, le Vietnam est devenu très fortement dépendant aux États-Unis. Sa richesse repose sur les exportations. Un tiers de ses ventes se fait vers l'Amérique avec 123 milliards de dollars d'excédent commercial. Le secrétaire général du Parti communiste a donc décidé très vite de négocier avec Donald Trump. Il a échangé avec le président américain. Il lui a aussi envoyé un courrier pour demander un délai d'au moins 45 jours pour tenter d'adoucir le président. Le Vietnam pourrait acheter du gaz liquéfié aux États-Unis. Il va aussi faire affaire avec Elon Musk qui souhaite investir pour installer son système Internet Starlink dans le pays.
Et cette dernière information sur les surtaxes, il y a quelques minutes, Donald Trump a menacé d'imposer des droits de douane additionnels de 50% à la Chine au 9 avril si les autorités de Pékin ne renoncent pas d'ici demain aux surtaxes de 34% annoncées vendredi dernier. Emmanuel Macron est en Égypte aujourd'hui pour apporter son soutien au plan de paix arabe pour Gaza. Le président français rejette tout déplacement de population dans l'enclave palestinienne, mais il ne veut pas non plus que le Hamas joue encore un rôle politique dans l'enclave. Aux côtés du président égyptien Al-Sisi, Emmanuel Macron s'est aussi rendu dans un forum économique consacré à la relation franco-égyptienne. On retrouve au Caire notre envoyé spécial Louise Baudet. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous.
Louise, l'Égypte, qui joue un rôle clé au Proche-Orient, cherche à diversifier ses partenariats, notamment avec la France.
Oui, la belle amitié franco-égyptienne mise en scène hier soir lors d'une virée au souk du Caire, puis avec toute la pompe qui s'y est aux visites d'État ce matin au palais présidentiel. Cette belle amitié se concrétise sur le papier par un partenariat stratégique et des accords dans les transports, la santé, les énergies renouvelables entre universités. Nous sommes des partenaires de confiance, a répété Emmanuel Macron cet après-midi, partenaire en quête d'indépendance, de non-alignement et de prospérité choisie.
Nous avons la conviction, l'un et l'autre, qu'au fond, dans un monde de plus en plus incertain, il faut bâtir un chemin d'indépendance, une forme de non-alignement géopolitique. On n'a pas tout à fait envie de dépendre des deux premières grandes puissances mondiales.
Référence à l'histoire égyptienne, celle du non-alignement de Nasser, référence aussi aux difficultés de l'économie égyptienne mise à mal par les crises régionales. 8 milliards de dollars perdus l'an dernier à cause des attaques des Houthis en mer Rouge qui impactent les revenus du canal de Suez, indispensable à l'économie. Et puis le régime reçoit chaque année 1,3 milliard de dollars d'aide militaire américaine, prix de son alignement sur les intérêts des États-Unis. Et cela dure depuis les accords de Camp David en 1979. Une rente que Donald Trump menace aujourd'hui de stopper si le régime égyptien n'adhère pas à son projet de Gaza Riviera, projet qui suppose l'expulsion vers l'Égypte d'une partie de la population gazaoui. Inacceptable pour le régime égyptien qui doit composer avec cette pression américaine et diversifier ses alliances avec notamment la France.
Louise Baudet, envoyée spéciale en Égypte avec Benjamin Reyes pour les moyens techniques. Le dossier de ce journal est consacré au 31e anniversaire du génocide au Rwanda. Le 7 avril 1994, le pouvoir Hutu lançait la chasse aux Tutsis, plus de 800 000 morts en 3 mois. Un témoignage pour ouvrir ce dossier, celui d'une rescapée, Eugénie. Elle est membre du CPCR, le collectif des partis civils pour le Rwanda, un collectif qui se bat pour que tous les génocidaires présumés réfugiés en Europe soient jugés. Eugénie veut la justice pour sa famille décimée.
Mon père a été tué, mes frères ont été tués au Rwanda. Et j'ai perdu mes cousins, j'ai perdu toutes mes tantes. Tous mes cousins, les enfants de mes tantes, les enfants de mes oncles, tous mes oncles, ils ont été tous tués au Rwanda. En fait, quand on a perdu quelqu'un, même 30 ans ne suffisent pas. Mais tout simplement, on se dit, la justice s'est rendue, mais elle est rendue à mon père, elle est rendue à les autres. Ça ne guérit pas. Cette justice rendue par les hommes ne guérit pas. Surtout quand les bourreaux, on va dire, ceux qui ont commis le génocide, ne reconnaissent pas qu'ils ont eu tort. Tant que la société ne désigne pas les victimes et leur donne leur statut de victime, et ceux qui ont commis ce génocide les jugent tous, sans exception, comme auteurs de ce génocide, jamais nos plaies seront refermées. Jamais.
Eugénie, rescapée du génocide rwandais, ce 31e anniversaire qui intervient dans un moment en particulier, la guerre en République démocratique du Congo. Les miliciens du M23 se sont emparés d'une partie de la RDC face à l'armée congolaise. Ils sont soutenus par le Rwanda. Un contexte qui alimente la résurgence d'un discours de haine contre les Tutsis, Mathilde Cariou.
Ça fait plusieurs mois que Daphro Zagotti reçoit ses vidéos tournées dans l'est de la RDC. L'horreur, nous raconte cette franco-rwandaise installée à Reims.
On voit des Tutsis dépecés, mangés, grillés.
Sur les réseaux sociaux, des appels au meurtre, à la persécution, comme en avril 94.
Les mots, c'est exactement la même chose. Il faut se débarrasser du Tutsi à tout prix. Vraiment, le discours de 1994 qui a glissé de l'autre côté de la frontière.
Cette rhétorique, elle trouve aussi son écho en Europe, sur TikTok notamment, où ressurgit la théorie du Tutsi dominateur prêt à tout pour conquérir la région. Hélène Dumas est historienne spécialiste du Rwanda.
C'est vraiment l'équivalent des protocoles de Sage de Sion, ce soi-disant plan de conquête qui date du début des années 60.
Exemple encore dans les paroles du chanteur Gims, tête d'affiche du concert Solidarité Congo.
Commence même pas à blaguer, je suis pas d'humeur et je te le dis tout de suite, c'est pas avec un jus d'orange qu'on calme la haine d'un Tutsi.
C'est pas seulement les mots qu'il utilise. Là, on le voit mimer un tir de Kalachnikov. On se demande un peu à quoi servent tous les travaux d'histoire qu'on mène depuis 30 ans quand on voit ressurgir des discours qu'on pensait rangés à tout jamais dans les étagères d'histoire.
Cette résurgence d'une idéologie raciste est la preuve, conclut Hélène Dumas, que l'on n'a pas encore pris la mesure de l'ampleur et de la gravité du génocide des Tutsis.
Mathilde Cariou, dont vous pouvez écouter le grand reportage intitulé « Rwanda, la justice française peut-elle refermer les plaies du génocide ?» sur franceculture.fr ou bien sur l'application Radio France. C'est une décision inédite en matière de protection de la faune sauvage. Le tribunal de Montpellier met à l'arrêt le parc éolien d'Omelas dans l'Hérault. Une suspension provisoire de 4 mois pour protéger des rapaces décimés par les pales des éoliennes. Véronique Robérotte, bonsoir.
Bonsoir.
À l'origine de cette décision, l'association France Nature Environnement qui avait porté plainte contre les gestionnaires du parc EDF Renouvelable et ses filiales.
Oui, toutes condamnées également à des centaines de milliers d'euros d'amende inédite. Vous l'avez dit, au pénal contre des exploitants d'éoliennes, et peine très sévère. D'abord parce que le nombre d'oiseaux tués par les pales des éoliennes est élevé. Au moins 70 faucons crient se relettent, des busards cendrés, des passereaux et aussi des chauves-souris. 200 au moins au total, toutes des espèces protégées. Il fallait arrêter le massacre. Et pour Olivier Gourbineau, juriste à France Nature Environnement Occitanie Méditerranée, c'est surtout l'attitude d'EDF qui a été sanctionnée.
EDF a minimisé au départ de l'installation du parc les possibles destructions de ces oiseaux. Et puis après, confronté à ces destructions d'oiseaux, n'a absolument rien fait pour les limiter et s'est mis en illégalité. Nous avons d'abord prené une action devant le juge civil qui a condamné EDF et lui a indiqué en 2021 que son comportement était un comportement pénal qui pouvait être constitutif d'un délit. Et ça n'a absolument rien changé au comportement d'EDF. L'administration, si à plusieurs reprises, a dit que ce parc fonctionnait en méconnaissance du droit de l'environnement et ils ont continué à exploiter ce parc. Ce parc éolien a été construit dans un site Natura 2000, dans un endroit où il y a des enjeux environnementaux très forts. Et en fait, il a continué à être exploité dans des conditions qui ne permettaient pas de tenir compte des enjeux de biodiversité correctement.
Le tribunal de Montpellier a donc ordonné l'arrêt des 31 éoliennes du parc d'Oumelas pendant 4 mois, le temps que le faucon Chris Rollett arrive ce mois-ci d'Afrique pour la nidification et reparte à la fin de l'été. À noter qu'une autre décision de justice est attendue d'ici 48 heures pour le parc de Bernag, c'est dans l'Hérault également, où des éoliennes ont causé la mort d'un aigle royal.
Véronique Robérotte, merci pour ces explications. L'heure des plaidoiries au procès du présumé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy après 3 mois d'audience, avec aujourd'hui celle des 3 anciens ministres poursuivis dans ce dossier, Éric Woerth, Brice Hortefeux et Claude Guéant. Claude Guéant, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, est celui des 3 qui risque le plus. Le parquet national financier avait requis 6 ans de prison contre lui, 100 000 euros d'amende et la confiscation de son appartement parisien au titre des 10 infractions retenues à son encontre. Et tout comme la défense de ses 2 co-prévenus, son avocat a plaidé la relaxe, Florence Turm.
À 80 ans, 6 ans de prison, une amende qui représente 2 ans de sa retraite et la confiscation de son appartement, c'est une peine de mort déguisée contre Claude Guéant, lance son avocat, des réquisitions d'une brutalité au même niveau que les approximations du parquet. Durant 2 heures, Philippe Bouchèze-Elgosi va s'employer à les démonter point par point, 10 infractions au total, du pacte de corruption au bénéfice de Nicolas Sarkozy à l'association de malfaiteurs en passant par le financement illégal de la campagne électorale présidentielle. Ses visites à Tripoli, rien de secret ni d'inhabituel. Sa rencontre avec Abdallah Senoussi, condamné pour l'attentat contre le décédiste d'UTA, un guet-apens tendu par les autorités libyennes. Les valises que le sulfureux homme d'affaires franco-libanais Ziad Takieddine affirme lui avoir remis, un pur fantasme, tout comme ce coffre-fort loué par Claude Guéant et qui n'a jamais contenu, selon lui, que des documents confidentiels de campagne. L'ancien secrétaire général de l'Élysée, ajoute son avocat, avait le cul. Culte du secret. Au total, un faisceau de malice plutôt qu'un faisceau d'indices, la défense enfonce le clou. De l'extrapolation au pataugeage, on arrive à un naufrage de l'accusation. Devant lui, un prévenu très droit sur sa chaise, il a été absent une grande partie du procès pour raison médicale. Ce qui a usé Claude Guéant, ce n'est pas l'âge ni les problèmes de santé, mais le poids de l'infamie, insiste Philippe Bouchèze-Elgosi. Il a été requis une injustice, je vous demande juste la justice. La relaxe pour Claude Guéant.
Florence Turm depuis le tribunal correctionnel de Paris. Demain, dernier jour de procès. La parole à la défense de Nicolas Sarkozy. Le jugement sera ensuite mis en délibéré. Le gouvernement a tranché, le mandat de la Civise est prolongé jusqu'en octobre 2026. La Civise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. C'est Catherine Vautrin, la ministre de la Santé et des Solidarités, qui l'a annoncé hier dans une interview au journal Libération. Initialement, la Civise devait disparaître dès le mois d'octobre prochain. Ses responsables se félicitent de cette prolongation tout en déplorant, je cite, « le message confus du gouvernement », Jeanne Stémar.
En novembre 2023, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants a remis un rapport au gouvernement dans lequel il figure 82 recommandations. Mais avec les changements de gouvernement successifs, difficile d'avancer sur ces dossiers. Plus d'un an et demi après, les recommandations commencent juste à être étudiées. Solène Potvin-Favre est membre du collège directeur de la Civise. Pour la commission, cette prolongation montre l'intérêt du gouvernement, mais cela reste encore insuffisant.
La victoire sur un prolongement de la Civise, en soi, c'est très bien, mais si le gouvernement ne prend pas à cœur les mesures pour vraiment faire une politique globale de protection de l'enfant, pour nous, c'est pas acceptable.
Sur 15 recommandations déjà évaluées par le gouvernement, 9 ont été validées, parmi lesquelles l'extension du contrôle du fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou la généralisation des dispositifs de remontée d'alerte. Certaines, comme l'ordonnance de protection de l'enfant, ont reçu un avis défavorable, ce que déplore la Civise.
L'ordonnance de protection de l'enfant permettrait une protection immédiate de l'enfant à partir du moment moment où il a le courage de parler. Aujourd'hui, un enfant qui parle et qui dépose une plainte contre un parent potentiellement agresseur doit retourner chez son parent potentiellement agresseur pendant tout le temps de l'enquête. L'enquête peut prendre 2-3 ans.
Les membres de la CIVIS, quasiment tous bénévoles, aimeraient un jour voir la commission pérenne et institutionnalisée.
Jeanne Stémard, merci. Le temps demain, le soleil continuera à dominer sur tout le pays, à part quelques entrées maritimes autour du golfe du Lion et dans le sud de l'Aquitaine. Les températures minimales seront contrastées entre moins 3 et 12 degrés du nord-est à la Méditerranée. L'après-midi, il fera entre 15 et 23 degrés. C'est la fin de ce journal. À la technique ce soir, il y avait Anthony Thomasson.